Sporting Dortmund, Juventus PSV Eindhoven et Manchester City Real Madrid. Il est 18h10 à Paris, 1h demain en temps universel. Tout de suite, c'est Mardi Politique.
Radio G.
Dimanche 16 février,
Radio G ouvre ses portes. Dans le cadre de la semaine des radios associatives,
venez découvrir votre radio locale de l'intérieur avec ses portes ouvertes.
À partir de 10h,
Radio G vous propose une émission en direct du 101.5 FM en public. En famille, entre amis ou avec des habitués,
on vous donne rendez-vous le dimanche 16 février 2025.
Sonnez aux 3 rues de la Rame à Angers et vivez au cœur de l'activité de votre radio associative.
C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous, et nous vous attendons nombreux et nombreuses.
Votre chance de découvrir Radio G, c'est dimanche 16 février à partir de 10h.
Radio G, savourez nos différences.
Tu as entre 18 et 40 ans ? Tu veux agir sur ton territoire aux côtés d'autres citoyens motivés ? Tu veux mener des projets sur des thématiques aussi variées que le handicap, l'écologie, la parentalité, le sport et bien d'autres ? Bienvenue à la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région. Viens découvrir l'association le 12 février en plein cœur d'Angers.
Rejoins-nous pour mener des projets citoyens, monter en compétences et faire des rencontres. Pour participer à notre soirée découverte, inscris-toi dès maintenant sur jciangers.com ou sur nos réseaux sociaux. Passe à l'action, rendez-vous le 12 février pour découvrir la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Hier, on était avec la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin et on parlait des spectacles à venir. Et ce soir, on reste aussi en culture parce qu'on sera avec le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est partenaire de l'émission. On va parler des spectacles pour ce mois de février et mars. On parlera aussi des actions mises en place avec les écoles et on fera un petit focus sur l'un des spectacles aussi. Et pour parler de tout ça, on sera évidemment avec Maude Pierre Dillemarquant, médiatrice culturelle et chargée de développement au THV. On sera aussi avec Amélie Chana, chargée de communication, et Coralie Manier par téléphone tout à l'heure. On aura aussi Charles, malheureusement, qui n'est pas avec nous en studio, mais rassurez-vous, on aura quand même l'édito impro en rediffusion. On aura aussi un podcast des indépendantes angevines, mais surtout on aura une chronique de Christelle. Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Tu es notre nouvelle stagiaire aux côtés de Camille pour quelques jours. De quoi tu vas nous parler ce soir ?
Je vais vous parler cinéma.
Eh bah parfait, on a hâte de découvrir tout ça. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur les actualités locales avec toi, Emilien. Bonsoir, Emilien.
Bonsoir, Nolwenn.
Aujourd'hui, c'est la grève au CHU d'Angers.
Depuis deux mois, les agents de la stérilisation de l'hôpital d'Angers demandent à la direction plusieurs changements. Une augmentation de leurs effectifs, la formation de nouveaux arrivants ainsi qu'une revalorisation salariale. Cependant, ces revendications qui restent sans réponse les ont poussés le 3 février à envahir la direction, fin de citation, afin de s'entretenir avec les responsables. Bilan décevant puisqu'aucune mesure concrète n'a été proposée ni acceptée. En réponse, 70% des agents se sont mis en grève jeudi et vendredi dernier, signe pour le syndicat Force Ouvrière du CHU d'une indignation face à une direction qui ne prend pas la mesure de la situation et qui ne montre aucun signe d'apaisement, ont-ils assuré dans un communiqué. Les agents de stérilisation, désormais en grève, assurent ne pas arrêter leur mobilisation ni leurs actions de blocage tant que la direction n'aura pas accepté leurs revendications.
Des centaines de paquets de cigarettes saisis par la douane et une amende de 105 000 euros.
Hier soir, lundi 10 février, au tribunal correctionnel d'Angers, le marteau tombe et requiert 10 mois de prison avec sursis sursis et 103 936 euros d'amende contre le prévenu. Cet homme, menuisier de 51 ans, marié et père de deux enfants sans casier judiciaire, a été arrêté par les douaniers dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 février près de la commune des Alleudes. Dans son véhicule ont été retrouvés plus de 660 paquets de cigarettes provenant de Tunisie. Le quinquagénaire avait obtenu cette contrebande à Marseille pour une somme de 13 000 euros, soit environ 1,5 à 3 euros le paquet, qu'il aurait revendu ensuite pour une somme de 5 à 6 euros en France. Malgré la défense de l'avocate Maître Tavenard sur les risques de représailles, les décisions du parquet et de la douane d'une amende équivalente au manque à gagner de l'État et d'une peine de prison avec sursis ont donc été retenues par le tribunal.
Un morceau d'éolienne sur une route d'Anjou, Émilien.
Hier, lundi 10 février, entre Douai-la-Fontaine et Montreuil-Belley, un convoi exceptionnel a perdu une partie de son chargement. Le moyeu de l'éolienne, une pièce de 50 tonnes permettant de raccorder les pales et le reste de l'infrastructure, a chuté sur la route. Encore sur l'axe à l'heure actuelle, récupérer le morceau nécessite un engin de levage spécifique. C'est pourquoi l'axe sera fermé de 10h à 14h le temps de l'opération. La déviation empruntera depuis Douai, la direction de Saumur, le Coudray-Macouar, puis Montreuil-Belley.
L'édito impro de Topette avec Charles.
Salut Nolwenn, salut les copains, salut les improvisants angevins. Aujourd'hui à l'édito impro, grosse question parce que je touche à un sujet sensible. Je parle des chaussons en impro. Là, si t'as jamais vu une match, tu dois... Camille, t'as-tu déjà vu un match d'impro, toi, dans ta vie?
Non, jamais. Ça non,
mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, bah, regarde, laisse-moi t'expliquer. OK. À l'entrée de chaque match, chaque personne du public se voit remettre deux choses. La première, un carton de vote qui permet aux équipes de marquer des points. Et un chausson, une pantoufle, une charentaise, une chaussette retournée, ouais, tu vois le genre. Attention, pas deux, juste une, okay?
OK?
Donc, alors, petit quiz, tout le monde. À quoi ça sert? Est-ce que c'est un, une solution des salles de spectacle qui ont dû baisser le chauffage suite aux coupures de la région? Deux, pour lancer sur l'arbitre en cas de désaccord? Ou trois, un prince un peu mollasson qui cherche sa princesse rencontrée à la sortie du Emmaüs de Saint-Serge? Alors, un, deux, trois, tout le monde. Vas-y, on essaie.
Moi, je dirais deux.
Deux, voilà, mais vous, vous trichez, vous le savez, en plus, oui, effectivement.
Je suis tenté de dire trois, moi, quand même.
C'était quoi? C'était deux? C'est,
oui.
Ah, ok.
Donc, les, ben oui,
c'est
les gens.
C'est sur l'arbitre.
C'est ouais. Ça. Ouais, le chausson est un signe de désapprobation. Voilà. Un autre droit d'expression qui est donné au public.
C'est génial.
Ok. Admettons. Et tout le monde, je vous mets dans le bain. OK, on est dans un match. Je suis l'arbitre de ce match-là. Il y a l'équipe de Topette et il y a l'équipe des imposteurs. OK, j'ai écrit ça sans savoir que vous faisiez du match comme quoi. Hein, les astres s'alignent.
Il est fort, il est fort.
Je donne une pénalité personnelle en tant qu'arbitre à la joueuse Nolwenn pour décrochage. Ben oui, ben oui. Donc, t'as fait une impro, t'as rigolé. Donc, pénalité de décrochage. Attention, dans ton match, c'est ta deuxième pénalité personnelle, Nolwenn.
Ça commence à faire beaucoup.
Ben oui, c'est ça. Et suivant les règles, moi, l'arbitre, je dois te sortir du match. Évidemment, je suis hué, ça fait partie du show, etc., etc. Mais là, petit truc en plus, vous avez, vous, public, votre chausson dans la main. Vous pouvez signifier votre mécontentement en me lançant votre chausson et en sauvant... Est-ce que vous allez sauver Nolwenn? Non. Mais au moins, vous pouvez montrer que vous n'êtes pas content. C'est drôle, c'est ludique, sauf que... Avec le caractère enjoué et rigolo de l'impro, on a tendance à l'oublier, mais il y a une démarche artistique derrière. On va la retrouver ensemble. Attention, flashback, on est en 1977 au Théâtre expérimental de Montréal. Le but de cette troupe-là est justement d'explorer différentes formes de théâtre, d'essayer de repousser les limites et de développer de nouveaux formats. Et c'est justement de là que va naître le match d'improvisation, la Ligue nationale d'impro, qui a calqué son concept sur le hockey, le sport national canadien. L'arbitre y est représenté comme étant l'autorité absolue. C'est l'impérateur de la patinoire. Le temps du match, il est le seul décisionnaire de ce qui se passe dans la patinoire. Ça représente un peu le politique qui, une fois élu, fait un peu ce qu'il veut jusqu'à la prochaine élection. En donnant des chaussons au public, on inverse la force du pouvoir et on redonne le tout au peuple. Bon, ça, c'est la forme finale de la recherche. Pour en arriver là, on est passé par différentes essais erreurs. Et là, on va entendre des improvisateurs, improvisatrices du 49 grincer un peu des dents. Par exemple, à l'époque, on lançait pas des chaussons, mais ce qu'on appelle chez moi des claques. Une claque, c'est une sorte de recouvre-chaussure en caoutchouc pour éviter que nos grolles se retrouvent mouillées par la neige et l'eau. C'est une époque où il n'y avait pas encore de crise pétrolière. On était à 10 centimes le litre, donc on pouvait faire des claques bien épaisses. On n'était pas regardant sur le robinet qui coule. Autant vous dire qu'une charentaise de laine, ça n'a pas nécessairement la même vélocité qu'une claque en caoutchouc. La petite pantoufle, t'as beau être un lanceur digne de Babe Ruth, de faire un magnifique lancer par l'épaule opposée, le chausson, il va juste se pogner dans le vent et faire un petit bump dans les rangées devant toi. Alors que la claque, non seulement c'est la fiesta de la force centrifuge, mais en plus d'avoir décapité un ou deux arbitres assistants, elle peut te revenir si tu as réussi à y mettre un peu d'effet quand même. Donc, non seulement on distribuait au public des munitions de destruction massive, mais en plus, ce n'était pas destiné à l'arbitre à la base. Et là, vous qui êtes improvisateur, vous allez le sentir. La claque est l'outil opposé du carton de vote. Avec le carton, tu dis ce que t'as aimé. Avec la claque, tu dis ce que tu as détesté. Le public est le maître du show. Wow. Et il se trouve que le show, si le show est pas bon, dans les années 80, il le lançait pas à l'arbitre, il le lançait aux joueurs. Ouf. Pendant l'impro. Hein, on vient de le sentir passer. On imagine encore une fois dans notre sketch que Nolwenn fait son match dans l'équipe de Topette. Elle fait une blague de femme au volant. Et je vous rappelle, les gens, c'est les années 80. Il y a des choses qui passaient à l'époque qui passent plus maintenant. Je vous le rappelle. Donc, voilà, c'est les années 80. Voilà. Bref, toutes les femmes dans le public ont la possibilité de lancer leur claque à Nolwenn.
Hein? Bien mérité.
Bien mérité, on est d'accord. Mais encore une fois, la démarche, elle peut se comprendre. Mais dans les faits, c'est pas ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'au moindre sentiment d'ennui, le public va lancer sa claque. Dès qu'une prise de risque est ratée, et Dieu sait que ça arrive, ben le public va huer les joueurs en déversant une marée de mécontentement. Marée noire. Bref, derrière une idée plutôt sympa et un peu politisée, le public va, lui, utiliser la claque comme une télécommande de télévision. Il aime pas, plaf, il claque. Bref, on est passé à côté de notre message et c'est à nous, artistes, de nous adapter. Même si un public, ça s'éduque, on est d'accord, s'il ne comprend pas ton message, c'est que t'as pas utilisé le bon langage, les gens. On revient en 2025 et malgré que l'on ait mis des trucs moins violents dans la main du public, assurément à cause du plan Vigipirate, hein, la problématique reste la même. Notre public passe toujours à côté du message artistique. Avec le chausson. J'ai même vu souvent, et peut-être vous aussi, des enfants installés dans les premiers rangs attendant que les chaussons tombent comme des bonbons de piñata, pas regarder spectacle, attendre juste que l'arbitre prenne position pour le canarder.
C'est vrai.
Et là, on est passé à côté, les gens. Admettons-le. L'excuse, ben, le public aime ça. Personnellement, moi, ça me suffit pas. Si ça empêche de faire deux ou trois impros parce qu'on perd du temps de ramassage et des gestions de foule, ben, ça, c'est pas intéressant. Mais à l'inverse, et je le rappelle, la démarche est intéressante. Je ne dis pas qu'on doit éliminer cette partie du spectacle. J'invite juste à trouver un substitut au claque. À trouver un moyen que peut avoir le public de montrer son mécontentement, de redonner de la parole au public. Ce serait trop simple juste d'enlever ça. C'est la particularité. En impro, le public fait partie du show. Donnons-lui simplement les bons outils.
Et juste avant d'accueillir nos invités du soir, deux petites informations. Plateau ciné de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin proposera le film Dugal et Charognard le jeudi 13 février à 19h30. Le synopsis et le tarif se trouvent sur leur plaquette. Il y aura aussi la compagnie du Pont d'Ardoise qui va présenter sa comédie Panique au Plaza de Récounet les 15, 16, 21, 22 et 23 février à Tiercé et Avrier. Et on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et je le disais tout à l'heure, ce soir, donc, on est avec le THV, on est avec Maude Pierre-Dillemarquant, médiatrice culturelle et chargée de développement au THV. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on est aussi avec Amélie Chana, la chargée de communication. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout à l'heure, on va parler avec vous des spectacles à venir pour le mois de mars et février. On va aussi se focus sur l'un d'entre eux, ça s'appelle Sous la surface. On aura la chance d'avoir la metteuse en scène au téléphone. Mais avant tout ça, on peut peut-être parler des actions qui sont mises en place avec les écoles en lien avec les spectacles. Il me semble, Maud, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de justement de ces projets spécifiques avec les écoles?
Alors, les écoles viennent voir des spectacles au théâtre et ça peut s'arrêter là. Et puis souvent, on essaye de faire en sorte qu'il y ait autre chose qui se passe en plus de l'avenue au spectacle. Alors, ça concerne pas toutes les classes, parce que c'est beaucoup, mais ça concerne, en fait, on met en place des projets particuliers autour de certains spectacles, et parfois c'est nous qui proposons les projets, et parfois c'est les classes qui nous disent bah voilà, moi j'aimerais bien faire ça, est-ce que ce serait possible qu'on travaille ensemble pour faire venir un artiste, ou voilà. Et alors, par exemple, alors on fait beaucoup de choses, donc là je pourrais pas détailler, mais il y a par exemple des artistes qui viennent passer une semaine dans une classe, ce qu'on appelle les classes en immersion, et du coup les écoliers ils font bah tout autre chose que ce qu'ils font habituellement, et c'est hyper chouette, à la fois pour l'artiste et pour les écoliers.
Et est-ce que le THV, il adapte un petit peu sa programmation pour répondre aux attentes aussi des enseignants et des élèves?
Non, en fait, c'est rarement dans ce sens-là, parce qu'en fait, on n'a pas vocation à rentrer dans des programmes. On a ce genre de demande, mais et puis en plus, les artistes, ils font pas forcément ça. En fait, c'est pas notre rôle. Nous, je crois que notre rôle, c'est de permettre autre chose, justement, d'apporter des... Il y a les enseignants qui font leur travail, et nous, on propose, à travers les choix qu'on fait des spectacles que proposent les artistes, on propose d'autres regards, d'autres ouvertures, des questionnements qui parfois chamboulent, qui parfois déplacent, qui parfois vont pas dans le sens de ce que voudraient forcément faire les professeurs. Mais voilà, on assume cette place-là, un peu en parallèle, quoi, un peu parfois, c'est pas dissonant parce qu'on n'est pas dans des choses ultra bizarres quand même, mais voilà, qui déplacent un peu même les enfants.
Et comment les artistes, du coup, qui sont impliqués dans ces actions, ils perçoivent l'interaction avec le jeune public? C'est quelque chose qu'ils aiment particulièrement?
Alors souvent, les artistes qui font du jeune public, ils font... Enfin, comment dire, c'est un vrai choix de créer pour du jeune public. Quand on parle avec ces artistes-là, c'est vraiment quelque chose d'intentionnel. C'est quelque chose même qui travaille depuis longtemps. C'est rarement, bah, je fais un spectacle là pour les adultes, puis là je vais faire un spectacle pour les enfants. Ça arrive, mais c'est quand même rare parce que c'est une approche un peu particulière de travailler pour les enfants. Ce que souvent ils racontent, c'est qu'à la fois, c'est un champ de liberté immense, c'est-à-dire que par rapport à des adultes, ils se restreignent plus que par rapport à des enfants. Et en même temps, le public enfant est très très exigeant, puisque quand ça plaît pas, bah les enfants ils se gênent pas pour le dire, quoi. D'ailleurs, les tout petits, ça arrive parfois qu'ils se lèvent, je sais pas, ils ont 4 ans, ils se disent bon, on s'en va, maman, c'est nul, j'ai envie de partir, quoi. Donc voilà, il y a un moment où faut pas se rater, je sais pas, après là il faudrait demander aux artistes, et on pourrait demander tout à l'heure à Coralie, mais pourquoi ils ont envie de créer pour les enfants? Est-ce qu'ils se dotent d'une mission? Est-ce que... J'en sais rien, en fait, ça, je pense que c'est propre à chacun. Mais effectivement, il y a un travail particulier qui se fait, et c'est pas la même chose pour la petite enfance, pour l'enfance, pour l'adolescence. On va bientôt avoir un spectacle pour les ados, et c'est pareil, c'est pas du tout la même façon d'essayer d'accrocher les spectateurs, et les mêmes thématiques abordées, évidemment.
Et est-ce qu'on observe des retombées, notamment sur la fréquentation des spectacles? Est-ce qu'il y a des familles qui viennent suite à ces spectacles représentés en école,
alors,
ces ateliers?
Je sais pas, parce que souvent quand ils viennent voir les spectacles à l'école, ils reviennent pas nécessairement les voir avec les familles. Par contre, on travaille depuis maintenant 3 ans avec un artiste plasticien qui s'appelle Flop, et qui est artiste associé, donc avec qui on travaille à la fois en atelier dans les écoles. Il a installé une grosse exposition, enfin une installation plastique, c'est un peu difficile de, mais quelque chose qui bouge avec des ombres et tout ça, enfin voilà. Et en fait, il y a pas mal d'enfants qui sont venus avec leurs parents, qui sont venus avec l'école et qui sont revenus ensuite avec leurs parents et qui ensuite se sont inscrits à des ateliers de pratique en famille. Et alors, le spectacle avait déjà eu lieu, mais je pense que s'il y avait eu le spectacle, il serait venu. Donc oui, il peut y avoir un lien très fort avec un artiste comme ça qui serait avec une œuvre. Après voilà, ça peut arriver aussi sur des années, mais comment dire, les artistes, les enfants grandissent. Et du coup, partent de l'école. Enfin, voilà, c'est plus difficile de les accrocher, en fait, on va dire.
Mais ça vous permet quand même d'évaluer le succès de
oui.
Ces actions, justement.
Ouais, ouais, ouais. Ah bah, puis après, c'est quand on les recroise, les enfants, bon, ils sortent de l'école, parce que moi, je travaille surtout avec les écoles primaires, et ça m'arrive de recroiser des élèves. des adultes et qui me disent ah mais je venais au théâtre quand j'étais à l'école et c'était super et ça. Donc voilà, parfois ils fréquentent plus le théâtre parce que en fait c'est difficile de maintenir une pratique culturelle surtout voilà quand, jusqu'à 25 ans on va dire, on est mobile, enfin les choses sont pas forcément installées et tout ça. Mais ils ont des bons souvenirs de ça et c'est possible que plus tard ça revienne en fait.
Et comment le THV il s'adapte par exemple aux différents niveaux scolaires? Peut-être qu'il y a des choses qui sont proposées, ça va de quel âge à quel âge, de la maternelle au
Alors,
lycée.
Alors on a des spectacles qui vont de 3 mois à pas d'âge en fait, mais donc on essaye de pour les on est, en fait on a envie de proposer des spectacles pour tout le monde. Donc on a des spectacles pour les enfants en crèche, pour les enfants en maternelle, pour les enfants en élémentaire, enfin primaire, puis après collège, lycée et puis bah après adulte quoi.
Et on adapte en fonction les actions culturelles en fonction
oui,
du public
oui,
qu'on
oui,
a en
oui,
face
oui,
de soi.
Bah oui.
Et est-ce que vous avez du coup constaté une évolution dans l'intérêt des jeunes pour le théâtre? Est-ce que ça a changé depuis quelques années? On s'intéresse peut-être plus au théâtre du fait de ces actions éducatives?
Je sais pas.
C'est des choses qu'on peut pas constater.
C'est difficile. Voilà, on n'a pas. En fait, moi, j'ai des chiffres de fréquentation. Voilà, là, je peux avoir voilà, combien de classes, combien de. Mais après, sur l'impact. Il faudrait faire un sondage qualitatif, enfin, je sais pas, un peu subjectif, mais c'est très difficile. Les élèves s'en vont et tout ça. Après, moi, je pense que ça joue sur une ouverture, sur un regard sur le monde et tout ça. Mais c'est parce que j'en suis convaincue. Mais le constater, c'est très difficile. J'en ai aucune idée. J'espère.
Eh ben, on espère aussi. Vous restez avec nous. On continuera à parler de la programmation de février-mars juste après. On va faire une petite pause musicale, mais juste avant tout ça, on va passer à la chronique de Christelle.
Vous vous ennuyez pendant les vacances? Il pleut? Il fait froid? Bref, un temps parfait pour aller s'enfermer dans des salles de cinéma. Voici un point actu ciné et événement des 400 coups pour ces vacances. Pour les jeunes vacanciers, un ciné-goûter est organisé ce jeudi 13 février autour du film Hola Frida. C'est un long métrage d'animation qui raconte l'histoire de l'enfance de Frida Kahlo. Après ça, il y aura une intervention du réalisateur et plasticien Simon Astier. Bien sûr, qui dit début février dit Saint-Valentin Nolwenn. Et ça, les 400 coups ne l'ont pas oublié. Dans le cadre des plans cultes, venez découvrir ou redécouvrir Quand Harry rencontre Sally. La comédie romantique culte sera projetée le vendredi à 20h. Un film pas prise de tête qui suit l'évolution des relations des deux protagonistes semées de coïncidences. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir en salle. Et bien sûr, si vous ne l'avez toujours pas vu, on vous conseille d'aller voir La Pampa. Film réalisé par Antoine Chevrolier, que l'équipe de Topette a pu interviewer dans son émission spéciale, le long métrage a d'ailleurs gagné le prix du public du festival. Il raconte l'histoire d'une amitié entre Willy et Jojo, deux amis plus soudés qu'un cadre de fenêtre à son bâton. Tous les deux, ils s'entraînent sur le fameux terrain de la Pampa, nuit et jour, pour passer le temps dans leur petit village. Mais Jojo cache un très gros secret. Si gros que quand tout le monde l'apprendra, il fera basculer sa vie et celle de tout son entourage. Pour les actus ciné, c'est fini. Bonne séance!
Ça me rend toute frêle, les secousses, j'aime ça. Quand tu mets ta bouche près de moi. Encore une fille qui perd dans ses tentacules. Je crois plus en l'amour et peut-être que j'ai tort. Si je tombe de haut, mon ami reprendra plus. Je me laisse aller, j'ai peut-être à gagner.
Qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la haine? Question. Fidèle, mais dans mes rêves, je change de reine chaque soir. Dis-moi qu'est-ce que le désir est juste avant le plaisir. Je le laisse avec la passion en lévitation. Dis-moi quand tu veux me voir. Dis-moi quand tu veux venir. Dis-moi quand tu veux. Dis-moi quand tu veux. J'aime quand tu me regardes, quand tu me baises. Crois-moi, ça me vend du rêve. Tu bouges ton corps en souplesse.
On écoutait J'aime de Nua sur le 101.5 FM de Radio G. Et on est toujours avec nos invités de ce soir du THV, Maude Pierre Dillemarquand, médiatrice culturelle et chargée de développement au THV, et Amélie Chana, chargée de communication. On parlait tout à l'heure du coup des actions mises en place avec les écoles en lien avec les spectacles au THV. Mais si on se concentre un petit peu maintenant sur la programmation à venir au mois de fin février, mars, on aura notamment Amélie, le théâtre du Ricus, qui proposera Grégoire. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette pièce? En quoi cette adaptation, elle se distingue des autres versions de la Métamorphose?
Alors disons que Laurent Mindon, qui est le metteur en scène du théâtre du Ricus, a demandé à Éric Pesson de réadapter l'écriture pour sa pièce, l'écriture de la Métamorphose de Kafka. Ça parle quand même de l'adolescence, hein, et puis de ses transformations et toutes ces questions qui viennent avec. On est dans la transformation du corps, et puis la prise de conscience, enfin de psychique, on va dire. Et sur scène, en fait, c'est un seul en scène, donc après on n'a pas trop d'infos là-dessus parce que c'est vraiment une créa. L'équipe est arrivée hier pour 15 jours de résidence. Là, ils sont vraiment en train de finaliser la création et je crois qu'ils sont sur la créa technique, notamment les lumières et tout ça. Voilà, ce qu'on sait,
c'est que... Après, c'est que le texte d'origine, il est sur la transformation d'un homme en scarabée, et c'est plus une critique de la société. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas... Alors que là, il l'a vraiment adapté sur l'adolescence. Et tout à l'heure, quand je parlais des spectacles pour ados, là, c'est vraiment un spectacle qui est destiné aux ados. Je crois que c'est à partir de 13 ans.
De 13 ans.
Voilà, alors, l'idée, c'est pas sûr toujours de parler aux ados de ce qu'ils sont. Mais là, en l'occurrence, ça peut être quand on traverse une période comme l'adolescence, qui est une période de... où tout est mis par terre, où tout d'un coup, il y a plus grand chose qui nous convient. Enfin,
on perd
ses repères, les parents, le corps, tout ça, les amis, tout ça, c'est compliqué. De voir quelqu'un sur scène qui traverse aussi cette chose-là et qui peut mettre,
en mots.
Ouais, c'est ça.
En mots, nos mots.
Voilà, ça peut être chouette. Et du coup, donc là, c'est toujours le thème de la métamorphose, mais avec les mots, effectivement, d'un autre auteur. C'est la même thématique, mais c'est Éric Pesson qui écrit.
Et il y en aura vraiment du coup pour tous les âges. Mmh. Si on parle début mars, du coup du 4 au 6 mars, il y aura la compagnie Allégorie qui va présenter des nuits pour voir le jour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce spectacle de cirque et des thèmes qu'il va aborder, de quel sujet ça
alors,
traite?
C'est une contorsionniste qui fait un... Alors c'est un spectacle, on a 3 séances parce que c'est un spectacle qui se joue en grande proximité. En fait, on est sur le plateau avec elle, tout autour d'elle. Et elle, donc, elle contorsionne son corps. Et en fait, elle parle de son rapport à ce corps et aux blessures. Parce qu'en fait, les circassiens, ils font des choses folles. Mais on est toujours ébahis. Ils ont toujours ce talent de rendre d'apparence facile quelque chose qui est en fait ultra compliqué et qui demande un travail monstrueux. Et en fait, elle va nous raconter, elle, comment elle s'est blessée 7 fois et comment forcément ces blessures changent le rapport au risque, le rapport à... Bah oui, à ce qu'on essaye de faire, aux limites, quand on se sent infaillible et voilà. Donc elle parle de ça tout en étant toujours une contorsionniste incroyable.
Et aborder des sujets comme ça, tout en étant subtilement, c'est pas forcément facile, j'imagine. Le 14 et 15 mars, il y aura aussi Corps Sonore par Corps Magnétique et Massimo Fusco. Alors le Corps Sonore Junior, on a dit tout à l'heure qu'il était complet hors antenne, mais celui pour les adultes, il reste encore des places, Amélie.
Il reste des places et en fait c'est un spectacle qui mêle la danse aux soins, on va dire, du bien-être, parce que Massimo Fusco en fait est un danseur et un masseur et il allie en fait ces deux disciplines là. Donc il invite le public à s'allonger
sur des gros
coussins,
du coussin
en fait,
galets,
qui sont juste en forme de galets, qui sont vraiment adaptés pour se détendre un max. et puis après il nous propose en fait de mettre un casque à nos oreilles et d'écouter en fait des histoires
De gens avec leur corps encore.
Ouais, c'est ça, des histoires de corps. Et en même temps, il y a toute une nappe sonore qui est générale, hein, donc si on n'est pas en casqué, on a quand même on a quand même ça, une genre de vibration d'un, alors peut-être pas d'un gong, hein, parce qu'on n'est pas là-dedans, mais
non, mais il y a une création voilà. sonore en dehors des histoires dans le casque.
Et carrément, après, on peut carrément se faire masser.
Et voilà. Puis danse. Donc en fait, c'est un spectacle qu'on peut voir les yeux fermés si on veut, sans le casque, avec le casque, en ouvrant les yeux, en regardant les danseurs et en acceptant un massage si on a envie d'être massé. Voilà. Et faut le voir quatre fois en fait.
Et l'idée, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, de lâcher prise et puis de se reconnecter avec nous-mêmes.
Ouais, c'est une super expérience.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spectacles interactifs, participatifs. C'est vraiment un choix du THV de proposer ce genre de spectacle.
Alors après, je sais que, enfin, de toute façon, les artistes aiment croiser les disciplines. Aujourd'hui, c'est les arts vivants se croisent sans arrêt, et dans tous les cas, ça reste de toute façon toutes des formes immersives en fait, parce que on va allier la vidéo avec de la danse, avec du théâtre, avec des arts du cirque, voilà. Donc,
et les choix au théâtre, c'est de mettre en avant des créations d'aujourd'hui, donc comme c'est ce qui crée, et de surprendre les spectateurs. Donc on a des spectacles de forme très classique où on est dans la scène, dans la salle, et puis on regarde les gens sur scène. Mais on aime bien aussi surprendre les spectateurs quand ils rentrent en salle, ils savent pas où s'asseoir, et etc. Ben, la salle est toute transformée, et c'est chouette en fait.
Oui, de nouvelles formes de spectacles. Est-ce que le THV, il essaye d'intégrer des compagnies locales dans sa programmation?
Toujours.
Toujours?
Oui.
Et comment on sélectionne ces compagnies locales? Est-ce qu'il y a des critères ou c'est les compagnies qui vous démarchent peut-être?
Alors il y a les deux.
Voilà.
Vas-y. Disons que les compagnies peuvent envoyer solliciter nos Gerval, qui est le directeur du théâtre.
Et le programmateur.
Aussi. Et programmateur, en leur envoyant effectivement leur dossier de présentation de spectacle et en sollicitant des entretiens. Et puis Gerval, quand même, et sa grosse mission, lui, c'est d'aller voir pas mal de spectacles partout. Voilà, la dernière fois, il est allé même à l'international.
Il est à Tunis et au Canada.
C'est ça. Bon, parce qu'on fait partie aussi de réseaux
internationaux de diffusion de spectacles.
Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'aller aussi voir et puis de programmer derrière, en fait.
Et du coup, l'idée, c'est de choisir à la fois des artistes, qui au-delà du Maine-et-Loire, et puis aussi d'être dans le soutien des compagnies locales. Mais après, c'est très subjectif. Hein. C'est un mélange de plein de choses, quoi. C'est à la fois un projet qui plaît, qu'on a envie de soutenir et tout ça, parce que ça va rencontrer un public que nous, on a envie de toucher. Mais aussi, enfin voilà, il y a quand même une part de subjectivité, quoi. C'est une construction.
Un mélange de plein d'artistes de tout horizon, de partout un petit peu. Mmh. On rappellera les dates des spectacles tout à l'heure. Mais Maud et Amélie, vous restez avec nous. On sera tout à l'heure par téléphone avec Coralie Magnier. C'est la metteuse en scène de Sous la Surface, qui parlera donc de son spectacle. Mais juste avant tout ça, on va écouter un podcast des indépendantes angevines, la chronique qui part à la rencontre des entrepreneuses locales.
Les indépendantes angevines, la chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire d'Elisa. Elisa a 24 ans et est coiffeuse coloriste à domicile. Cela fait 4 ans maintenant qu'elle s'épanouit au sein de son auto-entreprise. Une belle revanche pour cette jeune femme qui a mis du temps à trouver sa place. En effet, victime de harcèlement scolaire au collège, elle décide de changer d'établissement et intègre une troisième prépa professionnelle. Un nouveau parcours plus à l'écoute de ses besoins et de ses envies, qui lui permettra de découvrir la coiffure. Emballée par la diversité et le dynamisme du milieu, Elisa intègre à 15 ans le CFA de Niort en alternance et par la même occasion, fait ses premiers pas dans la vie active. Pendant 4 ans, 2 ans de CAP et 2 ans de BP, elle apprend le métier de coiffeuse au sein de deux salons. Elle y découvre les différents types de prestations, de clientèle et surtout la coloration végétale. En 2018, son diplôme en poche, elle s'installe à Bordeaux et décroche son premier CDI dans un salon de luxe. Quoique riche d'apprentissage, cette expérience ne lui convient pas. Elisa ne se sent pas à sa place et ne supporte pas la pression qu'on lui fait subir. Elle aime la coiffure, mais elle sent qu'il lui manque quelque chose. Le premier confinement va marquer un tournant dans sa carrière. Elle se pose avec sa mère et toutes les deux réfléchissent aux différentes options qui s'offrent à elle. Ouvrir son propre salon? Non. Elisa se sent encore trop jeune pour ça. Pourquoi pas la coiffure à domicile ? Une idée est née. En 2020, elle crée donc son auto-entreprise avec le pari de moderniser la coiffure à domicile. Elle veut le faire à sa façon, avec l'envie d'apporter de la nouveauté, de travailler avec des produits naturels et de limiter la surconsommation. Angevine depuis janvier 2023, Elisa s'éclate dans son métier et ne regrette absolument pas de s'être lancée. Bien au contraire. Elle a gagné en confiance en elle, en bien-être, et a su se créer un véritable cercle de copines entrepreneurs. Elle adore le côté relationnel et humain que permet la coiffure à domicile. Elle se sent proche de sa clientèle et leur offre un véritable accompagnement. Avec Elisa, vous avez accès à toute l'expertise capillaire et vous vous faites chouchouter tout en profitant du confort de votre chez-vous. Et je sais de quoi je parle. C'est un pari réussi pour cette jeune femme bienveillante et à l'écoute, pour qui l'entrepreneuriat est une véritable révélation. Son petit conseil à celle qui aimerait se lancer mais qui n'ose pas encore le faire, se demander « Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à gagner ?» Vous pouvez retrouver l'univers d'Elisa, ses prestations et ses projets à venir sur son compte Instagram, em-du-bas, coiffeuse coloriste. À très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Vous pouvez retrouver les podcasts des indépendantes angevines dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G. Et on accueille du coup on est toujours avec nos invités de ce soir du THV. Et nous sommes par téléphone avec Coralie Magnier. Bonsoir Coralie.
Bonsoir.
Alors du coup vous êtes la metteuse en scène du spectacle qui s'appelle Sous la surface. Et la date à retenir c'est le mercredi 26 mars si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que Coralie vous pouvez nous expliquer un petit peu le synopsis de ce spectacle?
Alors oui tout à fait, donc Sous la surface c'est un spectacle tout public à partir de 7 ans qui mêle les arts plastiques, le geste et le son, et qui explore le processus de création à travers le thème du brouillon, sous sa forme de motif, on va dire, sculptural du papier qu'on froisse quand on est insatisfait de sa production, et qu'on va, nous, pendant tout ce spectacle, déployer et vraiment développer de façon à générer un voyage, un véritable voyage dans l'imaginaire. Et c'est un spectacle qui mêle les arts plastiques et qui donc va faire entrer en jeu le papier qui va se déployer sous forme de masques, de costumes, de paysages. Et comme ce papier est blanc, afin qu'on projette vraiment tout un imaginaire, c'est la couleur, c'est la lumière colorée qui va coloriser et donner à voir, à ressentir, à percevoir des paysages, des endroits qui sont autant d'endroits d'exploration de notre héroïne, qui va se découvrir héroïne en fait, parce qu'elle va écrire son histoire. On rentre vraiment dans l'idée d'un processus de création qui se développe sous nos yeux. Et donc ce personnage qui au départ est sur un plateau nu, on ne sait pas, on imagine qu'elle est affairée à devoir produire quelque chose qui ne la satisfait pas, qu'elle cherche des idées, peut-être des inspirations, et elle va basculer tout à coup dans sa corbeille à papier, dans laquelle elle va tenter de chercher des réponses. Et un peu à l'instar d'Alice au Pays des Merveilles, elle va rentrer dans une autre dimension, celle de tous ces brouillons qui vont l'amener à se rencontrer elle-même en réalité, et qui vont l'inviter à découvrir par le biais de ces brouillons autant de possibles d'elle-même, autant de tentatives, en découvrant des peurs, des frustrations, ça joue sur beaucoup d'émotions. C'est non verbal, donc il n'y a pas de texte. En revanche, il y a quand même la voix de notre héroïne, sa petite voix aussi intérieure qu'on entend à plein de moments. Et voilà, spectacle mêle la lumière colorée, l'ombre qui va animer le papier. Et puis c'est aussi un spectacle dans lequel on développe beaucoup le masque, puisqu'il y a donc cette interprète au plateau qui est notre héroïne, mais aussi elle est accompagnée d'un personnage qui est satellite, qui est un petit peu un double d'elle-même, un double imaginaire qui, elle, est masquée et qui va jouer toutes les rencontres, enfin tous les autres que va rencontrer notre personnage, qui va donc égrener comme ça sur son voyage des péripéties, enfin qui va donc être un moteur de jeu et de dépassement, puisque l'idée c'est de valoriser la tentative que nous on a souhaité à travers le thème du brouillon inviter le spectateur à valoriser cette notion de tentative ou même parfois d'échec, ce qu'on peut envisager comme un échec, de dire que derrière, en fait, il y a autant de possibles et que c'est tout un apprentissage, mais que, comme le dit Beckett, il faut échouer mieux. Voilà un peu pour dresser l'histoire.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, Sous la surface, ça fait l'éloge des brouillons et des tentatives. Comment ça vous est venu, cette idée justement de brouillons, de tentatives, et pourquoi vous avez choisi de mettre ça en scène ?
Alors, c'est venu, je pense, par l'envie de travailler le papier et la couleur. Moi, je dessine, je peins, et tout à coup, je m'étais dit, j'avais envie d'appeler l'imaginaire du spectateur à travers cette perception de la couleur qui va teinter le papier, qui va amener des univers différents. Et comme le papier est aussi matière sculpturale, c'est vrai que la base du brouillon m'est apparue comme un super objet ludique qui questionne notre rapport à la réussite, à l'échec, qui est une boule en plus qui permet de jouer, qui peut être petite, moyenne, grosse, qu'après, en tant que marionnettiste, moi je suis marionnettiste de formation, on peut en plus s'amuser avec cette forme froissée, sculptée, de la travailler vraiment comme une matière à modeler. Et donc le thème du brouillon, après, c'est vrai, m'a semblé être un super sujet de recherche pour inviter le spectateur, notamment le jeune spectateur, l'enfant qui, à partir de 7 ans notamment, enfin quand il rentre en tout cas à l'école dans l'apprentissage de l'écriture, c'est pas propre, c'est mal écrit, l'erreur, enfin on rentre quand même dans une auto-évaluation, dans un auto-jugement qui peut être assez inhibant aussi, et c'est vrai que tout à coup de valoriser la force du brouillon sous cet angle de la singularité qu'il a et tout ce qu'il raconte d'intime en nous m'a semblé être un chouette sujet à aborder avec tout le monde, mais avec aussi évidemment les enfants et de les inviter, oui, à valoriser l'erreur, en tout cas la mettre en avant comme un tremplin en fait à l'apprentissage et à voir loin, à voir toujours plus loin, voilà.
Et dans ce
Dans ce
spectacle, du coup, pardon, il y a des masques en papier, des ondes, des lumières. Est-ce que vous avez pu rencontrer des défis particuliers pour mettre en scène cette pièce, justement ?
Pas mal de défis techniques. Alors, nous, on a pris ça un peu comme des joyeux défis, justement, parce que ce qu'on met en avant dans ce spectacle, comme on dresse le portrait d'un processus créatif en cours aussi. Hein, ce spectacle, c'est vraiment ce personnage qui va écrire son histoire au fur et à mesure aussi. Donc c'est... pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi, vous m'avez...
Est-ce qu'il y avait des défis particuliers que vous avez rencontrés?
Oui, donc c'est vrai que la lumière LED colorée notamment, qui s'installe de plus en plus au sein des théâtres, on l'utilise encore peu finalement dans la création, donc ça c'était un vrai défi parce que c'est des logiciels, c'est des adaptations selon les lieux, les lumières ne réagissent pas de la même façon selon leur modèle, donc à chaque fois il fallait se réadapter. Quand on trouvait la couleur qui nous plaisait bien comme en peinture, parfois on la perdait ailleurs, donc c'est vrai que ça c'est un vrai défi, que j'ai envie de dire qui est encore en mouvement parce qu'on est encore amené lors des jeux qu'on fait, à devoir s'adapter dans chaque lieu. Et c'est intéressant de vraiment rencontrer ce nouvel outil qui va vraiment se développer aussi dans le courant des années à venir. Et après, les ombres, c'est tout un travail, effectivement, de finesse, de détails. Donc oui, c'est un spectacle qui a mis en œuvre pas mal de techniques différentes. Mais c'est assez jubilatoire aussi parce que c'est tout un orchestre qui se fait justement au plateau entre la lumière, le son et les interprètes. On est quatre en tout, donc deux régisseurs et deux interprètes. Donc on est vraiment sur une partition à quatre. On a plein de rendez-vous ensemble et on fabrique ce voyage en direct ensemble. Enfin, c'est très artisanal. Moi, c'est ça qui me plaît dans mon travail. En règle générale, c'est de pouvoir aussi partir du simple. Et là, on est vraiment, on peut pas être plus simple. On a juste une corbeille à papier au plateau, du papier, une interprète, et en même temps on va développer tout un univers très élaboré, mais sur la base de la lumière, du son, de choses qui en réalité sont simples, mais c'est des rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est un défi, c'est d'être ensemble. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'on le joue, hein, on le rôde et on le fluidifie. Et c'est un spectacle qui s'écrit évidemment aussi avec les réactions des spectateurs. Donc c'est très nourri de tout ça.
Merci beaucoup Coralie Magnier. On le rappelle, donc la date du spectacle, c'est le mercredi 26 mars. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce spectacle. Voilà, donc on retient le 26 mars. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et c'est déjà la fin pour Topette pour ce soir. On le rappelle, on était donc avec le THV ce soir. Et on va peut-être rappeler du coup les dates importantes à retenir, Maud et Amélie. Quelles sont les prochaines dates de spectacle qui arrivent fin février?
On a le mardi 25 février avec Grégoire du Théâtre du Rictus. Qui a lieu à 20h30, voilà, à partir de 13 ans.
Ensuite, il y a des nuits pour voir le jour. Là, c'est mardi 4, jeudi, enfin mercredi 5 et jeudi 6 mars. Alors, c'est deux horaires différents, soit 20h30, soit 18h30. Et c'est à partir de 10 ans.
Ouais, spectacle familial.
Ouais.
Des spectacles donc pour tous les âges, c'est ça? Il y en aura pour tout le monde, jeune public, adulte.
Alors à vrai dire, nous on part du principe où c'est les spectacles sont pour tout le monde, quoi qu'il arrive, mais on notifie c'est le à partir de,
parce qu'en dessous c'est la moins accessible,
peut voilà être
c'est
plus ça compliqué.
Mais en fait quand c'est à partir de 10 ans, ça veut dire que jusqu'à 110 ans c'est ok, en fait voilà, il y a pas de limite quoi.
Parfait. Du coup, si on veut réserver, peut-être donner le site internet, ça se passe comment? C'est sur le site du THV?
Ouais, vous pouvez vous rendre sur le site du THV, www.thv.fr, et qui vous redirigera vers la billetterie. Voilà.
Eh bien, c'est noté contacter. Pour nos auditeurs, je pense. Nous, demain, on sera avec le CCJC, et jeudi, on retrouvera nos copains de WeForge. Moi, je vous dis à demain et Topette.
J'claque des culs au mic, hey. Qu'est-ce que j'dis au mic, yeah. Paye-moi, paye-moi, paye-moi. Bas les couilles des likes, j'le fais pas pour les Nike. Tant que ça tue au mic, j'détruis l'open mic. T'es enfoncé contre la pluie d'être, ça fait vroom vroom comme dans Need for Speed. Fusil de chasse à la ceinture, je bip bip à tous les portiques.
On y va.
Flanc de la concu, c'est une battue. On te laisse rien, j'en battue. Le prof m'a dit que j'ai des lacunes. J'ai pas fait bac plus, j'ai bouché sa pute. Topette à plus, c'est pas les states. Moi j'ai les champs dans les veines. On lâche un pogo dans ta caisse. On va dégueulasser ta benne. Castagne, tienne le mal est fait. Chauffe comment ils sont faibles. Chauffe comment ils sont faibles. J'claque des culs au mic. Qu'est-ce que j'tue au mic? Paye-moi. Paye-moi, paye-moi. Bas les couilles des likes. J'le fais pas pour les Nike. Tant que ça tue au mic, j'détruis l'open mic. J'claque des culs au mic. Qu'est-ce que j'tue au mic? Paye-moi, paye-moi, paye-moi. Bas les couilles des likes. J'le fais pas pour les Nike. Tant que ça tue au mic, j'détruis l'open mic.
We're hiding this morning, this Sunday morning, stole from your heart, my winter sun.
Le